France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les obsèques du pape François seront célébrées samedi matin, place Saint-Pierre à Rome. Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Volodymyr Zelensky seront là. Pas Vladimir Poutine, les dernières informations dans un instant. Alors que les cardinaux du monde entier, eux, convergent vers le Vatican. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'aéroport de Rome ?
Où nous avons rencontré ce matin, par exemple, des religieux venus d'Estonie, du Liban ou des sœurs du Mozambique, vous allez l'entendre.
A tout de suite pour votre reportage et nous parlerons des 5 cardinaux français qui vont voter pour cette élection, dont un certain Philippe Barbarin. Et puis à partir de 13h30, vous êtes croyant ou non-croyant ? Parlez-vous facilement autour de vous de la religion ? Est-ce que c'est un sujet tabou ? Au contraire, un sujet dont les Français parlent librement ? Nous posons la question aux sociologues des religions, Olivier Bobineau, 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. À suivre encore, la guerre entre les mafias de la drogue. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
À l'origine de la fusillade de Rennes la semaine dernière.
Oui, une concurrence entre trafiquants parisiens et rennais qui a abouti à des tirs en pleine rue à une heure d'affluence. 4 personnes ont été interpellées.
Tout cela alors que les actions anti-prison se sont poursuivies la nuit dernière. Nous serons également à Marseille avec ses salariés licenciés pour avoir distribué des invendus à des sans-abri. À 13h45, notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un cavalier et de sa monture.
Quand il arrivait devant un obstacle, il ne déclenchait pas son saut comme il fallait. Et au bout de quelques parcours, il n'avait plus besoin de se retenir. Il a eu confiance en moi. Il comptait sur moi comme moi je pouvais compter sur lui.
Nous faisons la connaissance de Cédric Hurel et de son cheval Fantasio. 13h50, c'est la France. Vous ne savez pas reconnaître les oiseaux ou les plantes ? Les clubs nature sont là pour vous. Ils sont de plus en plus nombreux, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Mel Rabédia avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce n'est ni un palais, ni une basilique, mais un bâtiment de béton des années 90 qui sert à loger les visiteurs qui se rendent au Vatican. La résidence Sainte-Marthe, c'est là que le pape François avait choisi de vivre après son élection en 2013. C'est là qu'il s'est éteint hier matin. Son corps y repose toujours dans une chapelle et hier soir, quelques-uns de ses proches, mais aussi des résidents ont participé à une veillée. C'est le cas du Français Pierre Jean Gire, ambassadeur de la Fondation Pontificale. Il réside à Sainte-Marthe.
Il repose dans un cercueil tout simple, en bois blanc, revêtu de ses ornements cardinalis. Il est en rouge. Deux gardes suisses lui rendent les honneurs dans une chapelle toute simple, à son image. Beaucoup de monde de la Maison Sainte-Marthe, de ses fidèles, de ses plus proches collaborateurs. Voilà, on a passé la nuit à veiller. Oh, il y a une cinquantaine de personnes, tout le monde est passé bien sûr. C'était très émouvant, mais il y avait également une atmosphère de paix. Lorsque vous regardez le Saint-Père dans son cercueil, c'est un homme qui est apaisé, soulagé. C'est un moment particulier parce qu'il faut savoir que le Saint-Père, tous les matins, il saluait tout le personnel Sainte-Marthe. Et il vivait avec nous, hein, il mangeait avec nous, il faisait son petit bouillon, il allait le faire chauffer au micro-ondes, faisait sa petite salade, comme n'importe lequel d'entre nous. Moi, je suis resté jusqu'à 22h.
Le témoignage de Pierre Jean Gire. À votre micro, bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. On a un peu le sentiment que le Vatican est dans un entre-deux aujourd'hui, entre l'adieu au pape, on vient de l'entendre, et puis la préparation de l'élection de son successeur, ce qu'on appelle le conclave. On va en parler dans quelques minutes. Avant cela, avec vous Bruno, les obsèques, elles auront donc lieu samedi matin. Le Vatican l'a annoncé dans la matinée.
Un mot de cet entre-deux dont vous parliez, en effet, à part la tribune qui est en train d'être montée au fond de la place Saint-Pierre dans la perspective des obsèques et les nombreux journalistes et techniciens que l'on croise, eh bien ce matin à Saint-Pierre, l'ambiance était celle d'un jour normal d'avril, sous le soleil et dans la douceur du printemps. C'est donc ici, à 10h samedi, sur le parvis de la basilique, que se tiendront les funérailles, dans les délais prévus donc par les textes du Vatican, 5 jours après la mort de François. Et donc, même s'il sera enterré à Sainte-Marie-Majeure dans la foulée, les adieux à François se referont au même endroit que pour Jean-Paul II et Benoît XVI. La cérémonie sera présidée par le doyen des cardinaux, cardinaux, Monseigneur Giovanni Battista Re. Dans la foulée, donc, le cercueil fera un dernier arrêt dans la basilique Saint-Pierre avant d'aller à Sainte-Marie-Majeure. Ce cercueil devant lequel les fidèles pourront se recueillir à Saint-Pierre à partir de demain 9h.
Et c'est un défi logistique, Bruno, pour le Vatican. Les personnalités présentes sont très nombreuses.
Déjà annoncé, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Lula, Javier Milei, Emmanuel et Brigitte Macron. La liste va évidemment s'allonger. Défi sécuritaire pour Rome en général, d'autant que ses obsèques vont se tenir le 26 avril, donc le lendemain du 25, qui est un jour férié ici, anniversaire de la libération, avec de nombreuses manifestations dans le contexte international que l'on connaît. C'est une année de jubilé par ailleurs, je le disais, et c'est le jubilé des adolescents ces jours-ci. On attend 130 000 ados dans les jours à venir. Entre policiers, carabiniers, hommes de la garde des finances, la presse italienne estime à 2 000 les membres des forces de l'ordre déjà sur le terrain. Quand on se souvient du convoi de voitures qui est passé au Vatican ce week-end pour le seul J.D. Vance, le vice-président américain. Mmh. On se dit en effet que ça va être rock'n'roll.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Et dès demain, le cercueil du pape sera exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les fidèles pourront donc se recueillir devant sa dépouille. Nous allons maintenant quitter le Vatican, c'est-à-dire le siège de l'Église, pour aller dans la ville de Rome, dans une église que le pape François connaissait bien, puisque c'est celle des Argentins. Elle a d'ailleurs été fondée par un prêtre argentin. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous y avez assisté à une messe ce matin?
Oui, et l'église argentine est ouverte en continu, hein, quasiment depuis la mort de François, l'archevêque de Buenos Aires, le pape du bout du monde, comme il se décrivait, ce pape adopté par les Romains à l'image d'Alberto, qui assistait à la messe ce matin et qui pleure à chaudes larmes.
C'est un grand pape qui nous quitte. Il va énormément nous manquer. Le dimanche, il nous saluait. Bonjour, bon dimanche, bon appétit. Il parlait avec son cœur comme aucun pape avant lui.
Au pied de l'autel, le prêtre, un Argentin, a placé un immense portrait de François, tout sourire. Et dès le début de la messe, il lui dédie quelques mots.
Offriamo in particolare la Santa Messa per l'eterno riposo del nostro caro Papa Francesco.
Une messe pour le repos de notre cher pape, le père Andrés, qui avait rencontré son compatriote pour la dernière fois en janvier lors d'une audience privée.
Il nous a reçus plus d'une heure. C'est le privilège d'être argentin. Le pays lui manquait. Il avait de la nostalgie. Il se tenait très au courant. Il savait tout de l'Argentine.
Et il nous demandait de nous occuper des plus pauvres, ajoute le prêtre. Perdre ce pape de l'humilité, c'est une grande douleur pour Francesca. L'église argentine est son église de quartier.
C'est la douleur de se sentir orphelin. C'est comme perdre un grand-père, un père, un oncle et bien sûr un guide. J'espère qu'il va être remplacé dignement parce que c'est une période très difficile.
Et déjà, cette fidèle cite un nom, celui du cardinal Zuppi, un Italien proche de l'évangile, simple. Pour elle, il serait dans la lignée de François.
Mathilde, un mot de l'affluence en ce moment à Rome. Vous y avez été correspondante pendant plusieurs années. Les images de la place Saint-Pierre qu'on voit depuis hier ne donnent pas l'impression d'une foule immense. Est-ce que c'est aussi votre sentiment sur place ?
Alors, ce n'est pas une marée humaine, effectivement, mais il faut s'imaginer hein, quand même une place très fréquentée, de toute façon, puisque Pâques, c'est la grande période touristique. Mais c'est vrai, c'est difficile de distinguer Place Saint-Pierre, les fidèles qui affluent pour François, des touristes hein, qui font la queue pour entrer à la basilique. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement massif de foule. Hein, on chemine de manière relativement fluide. Ce sera plus dense sûrement demain, quand la dépouille du pape sera exposée dans la basilique. À noter, cela dit, que c'est une semaine très particulière en Italie, une semaine à trous, peut-on dire, avec le lundi de Pâques, jour férié, et vendredi, le 25 avril, c'est l'anniversaire de la libération de l'Italie. Ici, c'est un jour férié aussi, et un certain nombre de Romains ont quitté la ville pour la semaine entière.
Merci Mathilde Imberti pour ces précisions en direct de Rome. Vous étiez à l'église des Argentins. 7 jours de deuil décrété en Argentine. Samedi de deuil national, ça c'est en Pologne, annonce du gouvernement polonais ce matin. Samedi donc, le jour des obsèques du pape. Nous étions à l'église des Argentins. Autre lieu qui compte en ce moment à Rome, dont au passage on révise la géographie, c'est l'aéroport Rome-Fiumicino. Là, nous sommes à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale italienne. Avec vous, Simon Le Baron, en direct. Vous assistez, Simon, depuis ce matin, à un véritable défilé.
Dans aucun autre aéroport, c'est clair, vous ne verrez autant de soutanes noires et de voiles blancs. Avec sa valise à roulettes, par exemple, Philippe Jourdan, évêque de Tallinn et français d'origine.
Depuis 20 ans, je suis citoyen estonien et plus citoyen français, parce qu'en Estonie, on ne peut pas avoir la double nationalité.
Il n'a pas oublié la visite de François il y a 6 ans, dans ce pays pourtant l'un des moins religieux d'Europe.
L'Estonie, c'est un petit pays, hein, 1,5 million. Il y a à peu près 10 000 fidèles catholiques, on peut dire. Et en fait, depuis l'Estonien de base jusqu'à la présidente, tout le monde est tombé amoureux de lui, quoi.
Pour la suite, il aimerait, s'il pouvait y faire quelque chose...
Si j'étais le Saint-Esprit, ce que je ne suis pas...
Il aimerait que son successeur soit aussi engagé pour la paix. Le père Dominique Hellou, lui, arrive du Liban.
Cette communion, c'est extraordinaire. Nous avons des gens de toutes les nations, de toutes les langues. C'est un échantillon de ce que l'humanité peut faire, si vraiment, quand il y a cette solidarité, cet amour.
Justement, voici ces nonnes du Mozambique, grand sourire derrière leur chariot.
Je suis Sainte Thérèse Carolina, religieuse de la Présentation du Mari.
Qui tombent dans les bras de leur sœur, venue les accueillir.
Vraiment un réconfort, parce que ça unit les forces. C'est toute l'Église qui prie avec nous, filles de l'Église, avec nos frères et sœurs de partout.
Estonie, Liban, Mozambique, voilà un tableau qui aurait plu à ce pape tourné pendant 12 ans vers ce qu'il appelait les périphéries du monde catholique.
Simon Le Baron pour ce reportage en direct de l'aéroport de Rome avec les moyens techniques d'Hélène Langlois et ses cardinaux que vous voyez arriver, Simon, en ce moment, prennent donc la direction du Vatican. Ce sont eux qui, entre le 5 et le 10 mai, la date exacte n'est pas encore connue, débuteront ce qu'on appelle le conclave pour élire le prochain chef de l'Église catholique. Alors partout dans le monde, les croyants, eux aussi, ont leur petit idée. Ici, Lydie et Ariette, rencontrées hier soir à la sortie de l'église de Pibrac, près de Toulouse.
Dans la même lignée, au moins.
La seule chose, qu'il soit ouvert, voilà, oui. Et qu'il puisse régler tous ces problèmes qu'il y a.
Et peut-être qu'on aura peut-être quelqu'un d'Afrique, puisqu'apparemment, je sais que c'est un continent très croyant, donc peut-être, on aura peut-être la belle surprise, on va voir ce qui sort de la fumée.
Ces deux fidèles au micro d'ici Occitanie, qui ne voteront pas, bien évidemment, ils sont... 5 Français, 5 cardinaux âgés de moins de 80 ans qui pourront prendre part au vote, mais aussi être élus. L'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, que plusieurs observateurs classent parmi les papes possibles. L'évêque de Corse, François-Xavier Bustillo. Christophe Pierre, qui lui est ambassadeur du Vatican aux États-Unis, Dominique Mamberti, qui est en poste à Rome et qui sera chargé de prononcer la formule Habemus Papam après l'élection. Ça nous en fait 4. Il y a un cinquième nom. Plus embarrassant pour l'Église, c'est celui de Philippe Barbarin, l'ancien archevêque de Lyon, accusé d'avoir couvert des abus sexuels, qui a démissionné de son poste, mais qui a été relaxé par la justice en appel. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Correspondant d'Inter à Lyon, Philippe Barbarin figure toujours sur la liste des cardinaux électeurs.
Oui, et rien ne s'oppose à la présence active du cardinal Barbarin au prochain conclave. À 74 ans, il fait partie de la centaine d'électeurs en bonne santé. Il est donc légitime pour intégrer le sacré collège qui élira à huis clos le futur pape. D'autant plus, vous l'avez dit, qu'il a été définitivement relaxé par la Cour de cassation en 2021. Le pape François avait déjà accepté sa démission. Depuis 5 ans, Philippe Barbarin réside à Saint-Perne, près de Rennes, où il est aumônier des petites sœurs des pauvres, mais il voyage beaucoup pour des missions en Amérique du Sud, aux Philippines ou auprès des chrétiens d'Orient. Il parle couramment l'espagnol et très bien l'italien et l'allemand. Comme le souhaite sa hiérarchie, l'ancien primat des Gaules fait profil bas. On ne l'a plus revu à Lyon en public, hormis pour une béatification en 2022. Ses proches le disent meurtri par son procès, par son éviction et plus encore par l'absence de soutien de ses confrères. C'est avec la même discrétion donc que Philippe Barbarin devrait participer à son troisième conclave. Son prochain séjour non confirmé au Vatican ne ravit pas les victimes du père Prénat décédé l'an passé.
Christophe Vincent pour ses précisions en direct de Lyon. Alors tous ces événements, ces préparatifs sont suivis, et c'est une nouveauté par rapport à la dernière mort d'un pape 2005, celle de Jean-Paul II, suivie sur les réseaux sociaux. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Réseau qu'avait investi le pape François, qui est pourtant né en 1936.
Oui, premier buzz à l'été 2013, l'année où le mot « selfie » entre dans le dictionnaire d'Oxford. François se laisse prendre en photo avec des ados venus visiter le Vatican. L'autoportrait devient viral. Le pape qui fait un selfie. Maintenant, j'ai tout vu, commente une internaute. Le souverain pontife ne sait pas se servir d'Internet, il le dit. Ça ne l'empêche pas d'y voir un don de Dieu. Il appelle les catholiques à être des citoyens du numérique parce qu'il a parfaitement compris le potentiel pour l'Église des réseaux sociaux. Dès son élection, il investit le compte Twitter tout juste créé par son prédécesseur, Benoît XVI. Aujourd'hui décliné en 9 langues, il compte plus de 50 millions d'abonnés. À partir de 2014, le Vatican organise aussi des chats avec des jeunes et puis 2 ans plus tard, une arrivée sur Instagram et YouTube. Symbole également de ce virage numérique, la décision de canoniser Carlo Acutis, cet Italien de 15 ans, mort en 2006 d'une leucémie qui avait créé au balbutiement d'Internet un site sur les miracles eucharistiques. Pour autant, François ne cesse d'alerter sur les risques liés au réseau, désinformation, manipulation des données personnelles, isolement. Attention, disait-il, à ne pas faire des jeunes des ermites sociaux.
L'Aurélie, la mort d'un pape, c'est évidemment un événement mondial. Est-ce qu'on en trouve traduction sur les réseaux ?
Oui, 5 millions de tweets sur X depuis hier, soit 60 tweets par seconde, selon Visibrain. On reste loin cependant du record lors de la mort d'Elisabeth II. 20 millions de tweets en 24 heures, soit 1834 par seconde.
Merci l'Aurélie qui arrive et nous reparlons à partir de 13h30 de votre rapport à la foi ou à la non-foi. Est-ce que vous gardez ça pour vous ? Est-ce que vous en parlez en public avec vos proches ? Venez témoigner 01 45 24 7000, posez vos questions à notre invité.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Qui s'en prend aux prisons françaises et à leur personnel ? 10 jours après les premières attaques visant des établissements pénitentiaires, de nouvelles actions ont eu lieu la nuit dernière. 5 véhicules de l'administration dégradés dans le Calvados, des inscriptions taguées sur la voiture d'un agent devant son domicile dans l'Oise. En Isère, les gendarmes ont arrêté 3 personnes dans une voiture avec à bord un jerrycan d'essence. Tout cela à 200 mètres de la prison de Vars. Ces gendarmes vérifient en ce moment s'il y a un lien avec les autres actions. Aucun doute en revanche à Villefontaine, toujours dans le département de l'Isère. Là, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. 2 maisons ont été touchées par des tirs, leurs portes d'entrée incendiées. Cette attaque visait des agents pénitentiaires de la prison de Saint-Quentin-Falavier qui habitent dans ce quartier, même s'ils n'habitent pas précisément dans les 2 maisons qui ont été ciblées. Leurs 2 résidents, un couple de soixantenaires, ont alerté leur fils juste après.
Ma mère m'a appelé à 2h56 exactement et à 3h45, j'étais là, quoi. C'est une erreur. Camper de maison ou de cible, ou moi, je pense qu'ils ont dû d'abord taguer, puis après mettre le feu et tirer pour partir, et puis pour pouvoir prendre la fuite plus tranquillement, je pense. Une grosse peur pour les parents, ouais. Très grosse peur. Mais surtout qu'ils ont rien à voir avec tout le monde pénitentiaire, police, justice, tout ça, quoi. C'est des gens lambda, quoi.
Il y a une balle qui a traversé
la salle de bain, ouais. Et qui est allée dans le carreau, dans le mur d'en face, ouais. Comprenez plus ce qui se passait dans la maison. Non, on n'y pensait pas. On se dit, il y a la prison à Saint-Quentin, pas loin. On se dit, ils vont toucher des grosses structures comme ça et pas des maisons où des particuliers habitent, et surtout au pif, quoi.
Témoignage recueilli par ICI Isère, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Autre enquête en cours et qui concerne aussi le trafic de drogue et ses conséquences. Cette fusillade, jeudi dernier, quartier Villejean, à Rennes, en plein jour. 4 jeunes ont été interpellés et mis en examen. Ariane Grissel, on vous retrouve. Ces jeunes cherchaient à reconquérir un point de deal. C'est une guerre des territoires entre bandes, c'est ça ?
En tout cas, ça y ressemble. Des trafiquants de drogue se sont installés là en janvier dernier sur la dalle Kennedy. Un réseau dont le chef est soupçonné d'être en Île-de-France. Évidemment, pas du goût des dealers locaux qui font tout pour ravir les lieux à cette concurrence venue d'ailleurs. Ce qui se traduit par plusieurs épisodes de violence. Puis les Rennais finissent par prendre le point de vente en début de semaine dernière. Mais les Parisiens donc n'en restent pas là et lancent l'assaut jeudi. Des tirs devant une chaîne de vente de sandwichs vers 17h, donc heure d'affluence. 3 personnes blessées par balle. 1/4 poursuivie en voiture et délibérément renversée. Le véhicule est retrouvé incendié 2 heures plus tard. Un homme est interpellé à proximité. Puis les enquêteurs mettent la main sur 3 autres suspects dans un appartement de Rennes. Ces 4 hommes ont de 21 à 23 ans et aux yeux du parquet, vu l'équipement retrouvés, notamment les armes, il y a peu de doutes quant au fait qu'ils étaient prêts à tout pour reprendre ce point de deal. L'un des suspects a d'ailleurs expliqué avoir été chargé de filmer cette attaque pour prouver aux commanditaires en région parisienne que le contrat avait bien été rempli.
Qui suivait donc tout cela à distance. Merci Ariane Grissel. Des salariés ont-ils le droit de distribuer des produits invendus à des sans-abri ? C'est ce qu'ont fait 4 employés des enseignes Prêtes à manger et Starbucks de l'aéroport de Marseille-Provence. Et cela leur a valu un licenciement pour faute grave il y a un mois. La direction du groupe Group, propriétaire des deux enseignes, explique de son côté avoir voulu mettre fin à des distributions qu'elle qualifie d'opaques. Et ce matin, Mathilde Vinceneux, ses salariés sont venus devant la presse s'expliquer.
Les quatre salariés se présentent masqués et parlent sous pseudo par peur des menaces. Tous travaillaient depuis de longues années pour la société SSP, prestataire des enseignes Starbucks ou encore Prêt-à-manger à l'aéroport de Marseille. Sabri avait 30 ans d'ancienneté. Depuis son licenciement, il a du mal à dormir et à s'alimenter.
Je ne comprends pas ce qui nous tombe sur la tête du jour au lendemain. Perdre son job pour une bonne action, tout cela parce que j'ai donné à manger à des personnes en difficulté au lieu de les mettre à la poubelle. On ne comprend pas.
Depuis de longues années, les sandwichs invendus étaient redistribués aux sans-abri et aux travailleurs précaires. Comme c'est le cas dans beaucoup d'aéroports, explique Sonia, autre salariée licenciée.
Depuis que dans la société, ça a toujours été comme ça. La direction était au courant. Il y a des caméras de partout dans l'aéroport. On n'était pas en train de se cacher, on était là visible.
Alors comment expliquer ce licenciement soudain pour faute grave pour des employés qui avaient entre 10 ans et 30 ans de service? Nicolas Guglier-Macci, secrétaire local de la CGT.
On se pose la question de s'il n'y a pas des licenciements économiques déguisés derrière. Il n'y a pas de petites économies souvent dans ce milieu-là.
La CGT appelle au rassemblement vendredi à 11h30 dans l'aéroport de Marseille et demande la réintégration des quatre salariés.
Mathilde Vinceneux, correspondante d'Inter à Marseille. Emmanuel Macron poursuit son voyage de 5 jours dans l'océan Indien. Après Mayotte hier et l'annonce d'un plan de refondation de 3 milliards d'euros, la Réunion aujourd'hui. Le président de la République s'est d'abord recueilli à la cathédrale de Saint-Denis en mémoire du pape François avant d'aller à la rencontre des habitants réunionnais confrontés à l'épidémie de chikungunya. Elle a fait 6 morts sur l'île depuis le début de l'année. On estime qu'un habitant sur 9 pourrait avoir été contaminé. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à La Réunion, vous suivez cette visite et le chef de l'État a défendu ce matin la stratégie de la France face à l'épidémie.
Oui, lors d'un premier bain de foule avec des Réunionnais ce matin.
Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien?
Impossible de ne pas parler de l'épidémie de chikungunya.
La France est l'un des premiers pays au monde à avoir acheté massivement le vaccin qui l'aide stabilisé et qui donc peut maintenant être diffusé.
Plus de 33 000 cas de chikungunya confirmés à La Réunion depuis le début de l'année, quand même il y a 17 ans.
J'arrivais plus à m'arracher avec les douleurs, maman venait me doucher.
Selon cette réunionnaise, l'épidémie est une conséquence du cyclone Garance qui a touché l'île fin février.
La pluie, le mauvais temps, le temps humide, ça a ramené encore plus de moustiques.
Et ces moustiques ont pu se multiplier dans les nombreuses flaques d'eau laissées par le cyclone sans que l'État n'anticipe, dénonce Dorian.
Au début de l'épidémie, on entendait juste il y a quelques cas, ça a vraiment commencé à faire des trucs par rapport à ça il n'y a pas si longtemps que ça. Vider les points d'eau, faire de l'information à la population.
Ce réunionnais de 23 ans n'est pas vacciné contre le chikungunya car, explique-t-il, l'injection coûte 200 euros et n'est pas remboursée pour tout le monde.
Elie Abergel sur l'île de La Réunion avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Les élèves de l'Académie de La Réunion qui sont en classe en ce moment, ce ne sont pas les vacances. En métropole, ceux de la zone B ont repris les cours ce matin. Pour les terminales, les épreuves du bac sont au bout de la ligne droite, même si les dés sont en partie jetés, puisque la note finale de l'examen repose désormais à 40% sur le contrôle continu. Alors ces notes diffèrent-elles d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre? C'est souvent le reproche que l'on fait à la réforme. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a mené l'enquête auprès de 2000 lycées généraux et Sonia Princey, il en ressort que les élèves sont plutôt gagnants.
L'étude compare pour une même matière les notes obtenues au contrôle continu et les notes des épreuves finales du bac. Résultat, globalement, le contrôle continu avantage les élèves. C'est ce qu'illustre parfaitement Guillaume, qui a eu son bac dans un lycée de la banlieue parisienne.
J'ai passé un bac avec des spécialités, donc spécialité histoire-géo et SES, sciences économiques et sociales. Et j'ai observé que pendant l'année, j'avais des notes aux alentours des 16, 17 dans mes spécialités et le jour du bac, plutôt 13. 14, donc quelques points en dessous quand même, avec des sujets qui je trouvais beaucoup plus durs que ceux qu'on avait en contrôle continu.
Le jeune homme a obtenu son bac avec mention bien, donc en partie grâce au contrôle continu. L'écart des notes est plus important dans certaines disciplines, en philosophie et en histoire-géographie. En revanche, et c'est l'exception, en mathématiques, les candidats réussissent mieux les épreuves du bac que les contrôles en classe dans les trois quarts des lycées. Les différences entre les lycées sont aussi très marquées. En zone rurale et dans les quartiers défavorisés, les élèves sont mieux notés par leurs professeurs que lors de l'examen. À l'inverse, les établissements qui obtiennent les meilleurs taux de réussite suite au bac sont plus sévères dans leur notation au cours de l'année. C'est le cas des lycées urbains au public favorisé, mais aussi de certains lycées privés.
Sonia Princé, des dizaines d'universités américaines, elle réplique à Donald Trump qui a décidé de geler des milliards de dollars de subventions pour ses universités. Il les accuse de propager la haine et l'imbécilité. Bien ce matin, des dizaines d'universités dont Yale, Princeton ou encore Harvard dénoncent, je cite, l'interférence politique de l'administration Trump. En Allemagne, c'est l'inquiétude pour les réserves en eau. Les précipitations relevées entre les mois de février et la mi-avril sont les plus faibles enregistrées depuis près d'un siècle, depuis le début des relevés en 1931. Très préoccupant pour les risques d'incendie, mais aussi pour les récoltes. Sébastien Baer est allé à la rencontre d'un agriculteur à Bredow, dans la région du Brandebourg.
Quelques coups de bêche dans le champ, au milieu des éoliennes. La terre dans laquelle Ariane Goedtke vient de planter son maïs est désespérément sèche.
La dernière fois qu'il a plu, c'était il y a un mois et demi. Mais presque rien, 5 litres d'eau par mètre carré, alors qu'il aurait fallu 4 fois plus. La terre est dure comme de la pierre.
L'agriculteur de 26 ans, qui a repris la ferme familiale, exploite 1000 hectares de terre. Il s'inquiète des conséquences du manque d'eau.
Il se pourrait que seulement la moitié des plants de maïs poussent dans le champ, ou alors ils pourraient être beaucoup plus petits et ne même pas avoir d'épi. Les sécheresses se reproduisent trop souvent, cela met en péril notre existence.
À l'Institut de recherche de Potsdam, qui étudie les effets du changement climatique, Fred Attermann est penché sur son ordinateur. Les graphiques et les photos qu'il affiche sur son écran illustrent ce début d'année bien trop sec.
On voit dans notre région que la végétation souffre beaucoup. Des arbres meurent parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Quand les plantes sont affaiblies, les insectes et les infections viennent se surajouter. Et puis le niveau des nappes phréatiques diminue et le risque incendie est élevé.
Ce qu'il faudrait, ajoute le chercheur, ce sont des précipitations fortes et durables, mais aucune pluie n'est annoncée avant le mois prochain. Bredow, Sébastien Baer, France Inter.
Et bonne nouvelle du week-end, les fortes pluies pour le week-end de Pâques ont fait remonter le niveau du Rhin, ce qui facilite la navigation sur le fleuve, même si elle reste perturbée compte tenu du faible niveau du cours d'eau. C'est tout simplement la plus grande gymnaste de l'histoire, Simone Biles, 7 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques, 11 médailles en tout, dont 4 l'été dernier, l'été 2024, aux Jeux de Paris. Mais Simone Biles ira-t-elle plus loin? Eh bien, à 28 ans, elle s'interroge. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Elle a été élue sportive de l'année hier soir lors de la cérémonie des prix Laurus du sport. C'était à Madrid et ce matin dans le journal L'Équipe, elle fait part de ses interrogations compte tenu de sa santé physique et mentale. Elle n'est pas sûre de disputer les Jeux de Los Angeles.
Et non, tous les athlètes le disent. Hein, l'après JO, c'est une période compliquée et encore plus donc quand on s'appelle Simone Biles. L'été dernier, l'icône américaine a enrichi sa collection de 4 médailles, vous l'avez dit, 3 médailles d'or supplémentaires. Mais elle explique avoir terminé les Jeux de Paris complètement lessivé.
Pour l'instant, je me concentre sur ma guérison physique et mentale parce que les Jeux Olympiques sont très éprouvants pour le corps. J'ai fait beaucoup de sacrifices, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ma famille, mes amis, mon mari. Donc je profite de mon temps libre avant de décider si je veux retourner à la salle de sport et concourir.
Inconsidérée depuis son abandon, hein, souvenez-vous, à Tokyo en 2021 comme la voix mondiale de la santé mentale dans le sport, Simone Biles assure s'être cachée pendant une semaine à son retour des Jeux de Paris pour fuir les projecteurs, les sollicitations, elle en a énormément et elle n'est donc pas certaine à 28 ans d'avoir le courage de repartir pour une Olympiade.
Beaucoup de gens pensent que c'est un engagement de seulement un an, mais non, c'est vraiment 4 années de préparation. Les Jeux seront aux États-Unis, c'est très excitant évidemment, mais je ne sais pas si je vais reprendre la compétition. C'est une grande décision à prendre.
Pour que je revienne, il faudra que ça me fasse vibrer, conclut la reine incontestée de la gym pour l'instant. Eh bien, cela ne semble pas vraiment être le cas.
Merci Nicolas Perronnet, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, le sociologue des religions Olivier Bobineau. Avec nous, nous demandons comment les Français vivent leur foi ou leur non-foi. Est-ce qu'ils affichent leur croyance? Est-ce qu'ils aiment en parler ou est-ce qu'ils gardent cela pour eux? Bien sûr, ça dépend de chacun, mais il y a tout de même quelques constantes. Venez nous raconter comment ça se passe pour vous. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, une semaine dans la vie d'un cavalier, alors que la relation entre l'homme et le cheval a beaucoup changé ces dernières années sur fond de réflexion sur le bien-être animal. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien, des Herbiers en Vendée, à Rubécourt dans les Ardennes, en passant par Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, on parlera des clubs nature qui nous reconnectent avec la faune et la flore.
et avec vous Frédéric, une humoriste.
Elle est également actrice, il s'agit de Mela Bédia. En ce moment, à l'affiche du film Le Mélange des genres de Michel Leclerc. Et avec elle, c'est un tube disco que nous écouterons, You'll Never Know. Un morceau qu'elle a découvert grâce à son frère Ramzi Bédia, auquel elle doit une bonne partie de sa culture musicale.
Ramzi qui est avec nous il y a quelques jours, on a
il
toute
y a
la
deux semaines.
Famille Bédia. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Vous agissez en faveur de la biodiversité et pour une consommation responsable. Vous êtes une association, une ONG, un organisme à but non lucratif. Bénéficiez d'une campagne publicitaire gratuite sur les antennes de Radio France en répondant à notre appel à candidature. Vous avez jusqu'au 28 mai pour déposer votre dossier et être l'un des 10 projets retenus. Radio France s'engage pour une publicité plus verte sur ses antennes avec l'opération Transition en commun. Toutes les informations sur radiofrancepub.com.
France Inter, partenaire de La Chambre de Mariana, un film d'Emmanuel Finkiel.
Je vais être Hugo, il y a Mariana.
Ukraine 1943, pour échapper à la déportation, Hugo, 12 ans, est confié par sa mère à Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close.
Personne ne va savoir ce que c'est.
Caché dans le placard de la chambre de Mariana, toute l'existence d'Hugo est suspendue au bruit qui l'entoure. Avec Mélanie Thierry et Artem Kirik, La Chambre de Mariana, au cinéma le 23 avril, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo, avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Nuages et éclaircies au programme.
Oui, sur la plupart des régions, c'est partagé entre éclaircies et nuages. Il y a aussi quelques averses de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine et du centre-val de Loire au nord-est. Quelques-unes sur les massifs. Parfois un orage cet après-midi sur le sud des Alpes, sur la montagne Corse. Sur les Pyrénées, il pleut. Et c'est de la neige vers 1800 mètres.
La neige
neige à 1800 mètres. La vigilance crue est maintenue sur Corrèze, Dordogne, Gironde, Charente et Charente-Maritime. Les crues se propagent vers l'aval des cours d'eau. Pour avoir davantage de soleil, direction de la Méditerranée, un soleil parfois voilé avec du vent, mistral, tramontane, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Les températures changent peu, petite hausse tout de même pour le nord-est. Comptez souvent 14 à 18 degrés, 18 à 20 sur le flanc est, jusqu'à 23 autour de la Méditerranée. Et puis entre ce soir et demain, un bon arrosage va balayer le pays, puisqu'une nouvelle perturbation va arriver ce soir par la Bretagne. Et il y aura aussi un vent parfois marqué.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Olivier Bobineau.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des religions, membre du groupe Société Religion Laïcité du CNRS. Merci d'être avec nous sur France Inter au lendemain de la mort du pape François pour parler de la place de la foi, quel que soit le Dieu que l'on prie d'ailleurs. La place de la foi dans notre société, la société française. Vous avez peut-être entendu depuis hier des gens de votre entourage ou des connaissances vous dire « En tant que chrétien, je suis touché par la mort du pape ». Et peut-être avez-vous à cette occasion découvert leurs convictions religieuses. Cela vaut aussi pour des personnes athées qui exprimeraient à cette occasion leur indifférence pour la religion. Bref, quand le débat sur les religions arrive dans nos conversations, voilà ce dont on parle aujourd'hui avec vous. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Venez nous dire si vous faites preuve de pudeur, de réserve, ou bien si au contraire c'est un sujet dont vous aimez discuter. Vous pouvez passer également via l'application France Inter. Olivier Bobineau, vous êtes sociologue, vous menez donc des entretiens. Est-ce que c'est difficile de faire parler les Français de ce sujet?
Eh bien, depuis quelques années, non.
Ah.
Exemple, tout à l'heure, le chauffeur qui m'a permis de venir ici, dans votre studio, Théodore, que je salue, eh bien, en discutant, il me dit, il est protestant, et il me dit, la foi, pour moi, c'est quelque chose que j'ai reçu, et je le manifeste dans ma vie quotidienne, ce que les théologiens appellent les œuvres. Les œuvres, c'est les signes de la foi, c'est ce que nous dit l'épître de Jacques. Mais qu'est-ce que la foi? Eh bien, c'est sans doute ce que les théologiens appellent la grâce, mais c'est surtout quelque chose qu'on a reçu et qui nous dit que les autres, l'autre, quelle que soit la religion, va nous sauver.
Et vous dites de moins en moins.
Et alors, de fait, de moins en moins de problèmes, parce que précisément, alors là, ça renvoie...
De moins en moins de problèmes ou de réserve pour afficher
ou de réserve.
Sa foi.
Ouais. Donc, de ce fait-là, on a pu discuter, et en prenant en compte cette définition, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, en France notamment, et aussi en Allemagne, eh bien aujourd'hui, il y a un cadre favorable, sans doute qu'il y a un environnement, sur lequel on reviendra, qui est favorable à l'expression d'une foi que j'appelle identitaire, c'est-à-dire qui est porteuse de sens pour des gens qui sont en quête de sens et qui parfois, vu la géopolitique, vu les risques écologiques, sociaux, politiques et même géopolitiques, eh bien... Oui, ils recherchent du sens, ils recherchent un cadre.
Ça, c'est pour la nouveauté que vous ressentez quand, quand vous interrogez des Français dans le cadre d'enquête ou dans le cadre d'un déplacement comme, comme ce matin. Mais j'ai envie de dire que la tradition ou le cadre ou l'habitude française, c'est plutôt une pudeur de la foi, plutôt une réserve.
Et notamment après les guerres de religion, les troubles et violences religieuses, pour reprendre le titre d'un historien, les guerriers de Dieu, Denis Crouzet, professeur à la Sorbonne, qui a étudié toutes ces guerres et ces violences religieuses entre 1525 et 1610 et qui ont fait des milliers de morts et qui vont expliquer d'ailleurs que nous sommes le seul pays au monde après avoir connu des barbarissimes violences, comme le dit Michel de Montaigne, eh bien nous sommes le seul pays au monde où il y a eu la laïcité. C'est-à-dire de dire au fond, attention à l'expression dans l'espace public de ta foi, parce que ça conduit à des meurtres.
Mais laïcité qui n'interdit pas de parler publiquement de sa foi. Enfin, alors, la liberté religieuse, c'est quand même d'exprimer ses convictions religieuses publiquement.
Ah mais vous venez d'ouvrir le grand débat, y compris d'actualité. Qu'est-ce que la laïcité? Il y a deux options. Il y en a qui considèrent que c'est la privatisation de la foi. Ferme ta bouche, rentre chez toi tu fais ta foi, ça ne correspond pas du tout.
C'est pas ce que dit la loi.
C'est pas ce que dit la loi du 9 décembre 1905, article 1 et article 2. Comme le dit le grand spécialiste de cela, Émile Poula, décédé il y a quelques années, Poula nous a appris que ce n'est pas la privatisation de la foi, c'est la publicisation de la foi, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Voilà, donc pas de trouble à l'ordre public, pas de prosélytisme non plus, en tout cas.
Abusif, voilà. Abusif. Ouais. Parce que je peux, en droit, vous savez, ça, c'est aussi dû à l'histoire de France, mais le prosélytisme,
c'est toujours les autres.
Ben oui, c'est et c'est le propre d'une démocratie. Mmh. Mais le prosélytisme abusif, c'est je vais vous convaincre, Jérôme, et tu m'écoutes et ferme ta bouche. Ouais. Ça, c'est abusif et c'est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme.
Et tout prosélytisme interdit à l'école et en entreprise. Là,
prosélytisme voilà, abusif. Car évidemment, prosélytisme au début, ça veut dire échange d'opinions.
Mais je peux aller distribuer des Corans ou des Bibles.
Pas à l'école.
Voilà, et ni en entreprise.
Ah, en entreprise, je peux faire état dans l'espace public privé. Ça dépend après du régime qui régit soit la laïcité. C'est le cas des grandes entreprises, y compris que j'accompagne, soit c'est le régime de neutralité. Dans ce cas-là, en effet, je ne peux pas exposer. Mais il est bien évident que cette liberté de conscience, y compris, porte sur les religions, les convictions religieuses. On ne peut pas empêcher un dialogue dans un espace laïque.
01 45 24 7000 pour vos appels, pour vos témoignages. C'est Bruno qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Quel est votre profil, vous, Bruno? Vous êtes plutôt de ceux qui exposent leur foi ou leur non-foi, d'ailleurs, ou quelqu'un qui garde plutôt ça pour lui?
Alors, pour revenir sur les propos de votre invité, je n'ai pas de pudeur à exprimer ma foi. Mmh. J'ai grandi, j'ai plus de 65 ans, j'ai 65 ans. J'ai grandi dans un univers catholique, croyant, pratiquant, ici à Biarritz, au Pays Basque. Et j'ai eu l'occasion, par mon travail, de beaucoup voyager et de vivre à l'étranger, notamment en Égypte. De 4 ans dans un environnement musulman où j'avais l'occasion de rentrer, soyons honnêtes, faire la sieste dans les mosquées et pouvoir discuter avec des amis musulmans. À Helsinki, en Finlande, chez nos amis chrétiens protestants, mais aussi plus récemment en Argentine, et j'habitais à Buenos Aires quand le pape Jorge Bergoglio a été élu. Mmh. Et la question que je posais tout à l'heure à vos collègues du Standard, c'était, est-ce que vous pensez qu'un pape type, ouvrez les guillemets, superstar et proche du peuple, comme l'était Jésus-Christ apparemment, est de nature à réattirer les gens vers les paroisses?
Mais de ce que je comprends Bruno, vos voyages et le fait d'avoir côtoyé par exemple des musulmans en Égypte, par exemple des catholiques en Argentine, font que rentrer en France, vous êtes dit, je vais peut-être assumer davantage ma croyance, en parler davantage.
D'une part oui, parce que la foi passe aussi par le doute. c'est légitime. Mmh. Et je m'étais éloigné de l'Église en grande partie pour une liturgie que je trouvais ennuyeuse. Mmh. Et voilà, j'y suis revenu depuis, après mes voyages, je n'hésite plus à rentrer dans les églises, dans les cathédrales, pour remercier le Tout-Puissant de m'avoir protégé pendant mes voyages, mes enfants, ma famille.
Je fais réagir notre invité, si vous le voulez bien, Bruno, et puis j'accueille d'autres invités qui nous appellent et qui nous sollicitent. Olivier Bobineau, est-ce qu'on se singularise, nous, en France, par rapport à d'autres pays, de ce point de vue-là?
Oui, pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure.
Guerre de religion, l'expression est restée.
Les guerres de religion est restée très forte. Et surtout, par exemple, d'autant plus imprégnante que dans les études que j'ai menées sur les manuels scolaires, dans les écoles, en France et en Allemagne, quand je vous regardais le mot religion, à quoi est-il associé en Allemagne? Premièrement, paix, deuxièmement, spiritualité, troisièmement, guerre. Et en France, ça veut dire que vous, nous tous et nos auditrices, auditeurs, ils sont passés au prisme des manuels scolaires où, entre 1990 et 2000, religion est associée à guerre, en premier, en deuxième, guerre, et en troisième, guerre.
Ouais.
Donc, ce contexte-là fait que ça ne favorise pas l'expression de la foi. Sauf depuis quelques années, parce que précisément, nous sommes rentrés dans un temps d'incertitude radicale, comme disent les sociologues et les économistes, où la question du sens, c'est-à-dire quelle direction je prends, comment je signifie les choses, et comment j'incarne dans ma vie ma quête de sens. Et ça, c'est devenu primordial. Et là-dessus, eh bien oui, en France comme ailleurs, en Europe, mais aussi aux États-Unis ou en Amérique du Nord ou en Asie, on exprime de plus en plus sa foi.
Bruno parlait de son séjour en Égypte, donc pays à majorité musulmane. Est-ce que le fait qu'il y ait davantage de musulmans en France, avec une pratique de la religion différente, on entend plus de musulmans dire « bah moi je fais le ramadan » que de catholiques dire « bah moi je fais le carême » par exemple, est-ce que ça pousse aussi à afficher publiquement davantage sa foi pour toutes les religions, si je puis dire. Une pratique différente, notamment chez les jeunes.
Oui, vous avez raison de souligner ce point. C'est le fait social essentiel, c'est que tout groupe minoritaire dans un pays démocratique tend à exprimer d'autant plus, du fait de sa minorité, ses expressions politiques et religieuses et spirituelles.
Plus et donc, je suis minoritaire, plus j'ai envie qu'on m'entende.
Bien sûr, et notamment dans un cadre de laïcité, ce qui fait que, et vous avez raison de le souligner, depuis quelques années, eh bien, il y a certains catholiques qui affirment cette foi identitaire. J'insiste sur le mot « identité ». Parce que qu'est-ce que l'identité? Et c'est ça qui est capital. C'est un processus de construction de sens à partir d'éléments culturels. Je reprends la définition du sociologue d'origine espagnole Manuel Castells, dans un beau livre qui s'appelle « Le pouvoir de l'identité ». Et là, Castells nous pointe quelque chose d'essentiel pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est que dans la foi, pendant des années, c'est une profondeur intérieure, comme dit Augustin d'Hippone, saint Augustin. Aujourd'hui, c'est comment je réponds aux défis, à la peur ambiante, aux multirisques que j'évoquais tout à l'heure, de tous ordres, eh bien, je réponds en donnant du sens, une direction, je réponds en donnant une signification, mais surtout, je réponds en l'incarnant et en le disant dans l'espace public démocratique.
Donc l'expression publique, dire voilà je suis croyant, l'afficher avec des signes religieux par exemple, c'est aussi une réponse à une crainte,
c'est
à une angoisse.
À une peur, une peur sociale, une peur partagée.
Mais à l'inverse, la peur, et là je pense aux Français de confession juive, elle peut aussi conduire à cacher des signes.
Bien sûr.
Les recrudescences d'actes antisémites ces derniers mois.
Bien sûr.
Et on sait que certains Français juifs se disent je vais essayer de montrer le moins possible mon appartenance, de crainte de violence.
Ou encore hier après-midi, pour tout vous dire, dans la ville de Rennes, je me suis permis d'interférer dans une discussion où une personne de confession musulmane ne pouvait pas parler parce qu'elle était cataloguée aussi et agressée parce qu'elle était suspecte d'une foi musulmane, y compris pour des musulmans et des juifs. Parfois, dans certaines situations, en effet, de peur d'être agressée, ils vont la camoufler, la cacher.
Ou pour trouver du travail, par exemple.
Ou pour trouver, en effet, un emploi, et notamment dans certains entretiens d'embauche qui ont fait aussi de jurisprudence.
Est-ce que la disparition du pape, et puis les semaines qui vont arriver avec l'élection d'un nouveau pape, ça peut être l'occasion aussi pour les familles, pour des amis, des groupes, de parler de l'Église, du rapport à la foi, des agressions sexuelles qui ont pu mettre en cause aussi des prêtres, et de peut-être les réflexions, la distance que ça a pu poser entre certains croyants et l'Église.
Alors, si vous me permettez, j'ai une hypothèse là-dessus, d'autant plus pour la foi, pour expliquer les baptêmes des adultes. On a vu dans différentes paroisses et diocèses, depuis 2 ans, une augmentation assez étonnante, notamment pour les sociologues et historiens, du fait religieux, et que l'une des hypothèses que j'avance, c'est simple, c'est que l'Église, justement, sur la pédophilie des prêtres, dans un livre qui s'appelle « Le sacré incesteux », que j'ai commis avec quelques-uns, « La pédophilie des prêtres », en 2017, ce moment-là est à la fois dramatique pour l'Église, mais au Karcher, elle a pris au sérieux les criminels, les prêtres criminels. Maintenant, il y a des espaces, comme l'armée française, comme l'école, où certaines familles, où il y a de l'inceste, elles n'ont pas pris au sérieux cela. Pour l'instant, on n'a pas fait d'analyse précise des cas commis. Et on n'a pas, pointé ces crimes. L'Église, elle l'a fait. Et le paradoxe veut que, certes, c'est une crise, et c'est une crise profonde. En Allemagne, notamment, il y a des gens qui ne payent plus d'impôts pour leur Église. Mais en France, l'une des hypothèses que je vous soumets, c'est de dire, au fond, après ce lavage de fortes crises, fortement intenses, eh bien, il y a des gens qui se disent, bon, eh bien, elle essaie d'être la plus transparente sur des sujets qui fâchent et qui sont bouleversants et dramatiques, eh bien, peut-être que c'est ce cadre-là dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de transparence sur des vrais problèmes tout en donnant du sens. Peut-être que là, paradoxalement, elle récupère un peu cette phase où elle a fait une forme d'action de vérité.
Et ce sera peut-être les semaines que nous allons traverser l'occasion d'en parler entre...
Bien sûr, entre chrétiens, catholiques, entre
croyants. Alors on parle de toutes les religions, là, avec vous, Olivier Bobineau. On est aussi frappé, vous me direz si vous partagez ce constat, en France, par le fait qu'il y a peu de personnalités publiques, qu'elles soient politiques ou autres, qui affichent leur foi par rapport à d'autres pays. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites? Est-ce que c'est une exception ou quelque chose qui nous distingue en France?
Ah mais tout à fait. Quand je faisais ma thèse doctorat en Allemagne et en France, le maire d'Augsbourg de l'époque, du SPD, du Parti Socialiste, citait l'évangile de Matthieu. Et quand j'avais affaire à un maire de l'ouest de la France qui était catholique pratiquant, il était hors de question, y compris dans son parti, dans la section du Parti Socialiste, d'oser citer à un moment donné l'évangile et encore moins Jésus. Ça s'explique toujours par cette histoire tumultueuse, conflictuelle et structurante de notre représentation de la religion, c'est-à-dire que pour nous, notre inconscient collectif, les manuels scolaires l'ont bien manifesté, religion égale passion égale violence.
Et de ce point de vue-là, vous voyez les choses évoluer ou pas? Où il y a toujours cette réserve des personnalités, que ce soit des stars, du sport, de la culture, de la chanson, ou pas?
Dans l'espace public, avec quand même aussi une spécialisation, parce que à l'époque, on parle de certains médias, mais aujourd'hui, grâce à Internet, d'une certaine façon, les gens se lâchent d'autant plus, et y compris dans leur foi. Alors ça peut aller jusqu'à l'excès, jusqu'à la condamnation, à des fatwas, à des excommunications, pour reprendre le langage religieux chrétien. Et de fait, si vous voulez, ce qu'on observe, c'est une séparation. Dans les espaces publics traditionnels, télévision, radio, y compris la vôtre, on ne va pas afficher. En revanche, on va se lâcher sur les réseaux sociaux.
Merci Olivier Bobineau. J'ajoute deux informations. D'abord que l'Italie décrète 5 jours de deuil national.
Et oui.
Ça, c'est une annonce qu'on vient, une information qu'on a à l'instant. Et puis l'autre information, c'est que votre BD est disponible aux Arènes BD. Plus de 500 pages, c'est l'histoire incroyable de l'Église que vous signez avec Pascal Magnat. Tout cela est illustré et se lit de manière très agréable, plaisante et facile. Merci infiniment.
Merci à vous
d'avoir été avec nous aujourd'hui. 13h46. Lors de notre feuilleton, nous passons toute cette semaine dans la vie d'un cavalier. Alors que le bien-être animal remet en cause le lien entre l'homme et l'animal, regardons ce qui unit l'un de nos meilleurs cavaliers et sa monture. Il s'agit de Cédric Hurel, 51 ans, vainqueur en février dernier avec son cheval Fantasio du prestigieux jumping de Bordeaux. Et le duo va tenter cette semaine de conserver son titre de champion de France de saut d'obstacle. Leur réussite est tardive et Emma Sarango est allée à leur rencontre dans l'écurie de Gambé, c'est dans les Yvelines.
Voilà, il a fait sa petite séance d'obstacles, mais il a fait uniquement, je dirais, entre 8 et 10 sauts. C'est juste pour les articulations, parce qu'il n'avait pas sauté depuis 10 jours. C'est un cheval qui a énormément d'expression. Voilà, il a un œil un peu clair, et pour moi, c'est les chevaux qui sont assez intelligents, qui calculent tout. Moi, je trouve que c'est un très bon œil, parce qu'il fait un peu œil de biche comme ça. Il est très bien musclé de partout, il a des super bons tissus. Et lui, il a des pattes impeccables, alors qu'il a 15 ans et il est encore en pleine forme. On l'a acheté, il avait 9 ans, c'était en 2019. Donc l'histoire, c'est que son ancienne propriétaire, qui était sa naisseuse aussi, son éleveuse, voulait le vendre. Et il faisait que des épreuves à 1m20, 1m25. Et encore, il n'en avait pas fait énormément. Et puis, je me suis dit, il n'est pas très grand, il est mignon, il fait des épreuves à 1m25 pour pouvoir convenir pour ma femme Barbara. Moi, je l'ai débuté un petit peu en concours sur 1m20, 1m25. Il a enchaîné les 100 fautes. Il a fait, je crois, 18 classements successifs. Et puis, on a continué comme ça chaque année jusqu'à temps de monter échelon par échelon, 1m45, 1m50, avec des belles performances. On a gagné plusieurs grands prix, 3 étoiles. Il a un palmarès de régularité assez impressionnant. Jusqu'à être champion de France l'année dernière, au mois d'avril. Jusqu'à temps aussi de gagner le 5 étoiles de Bordeaux il y a un mois et demi. Donc voilà, plus ça va, plus on enchaîne les belles performances. Les belles victoires se succèdent. Donc voilà, l'histoire de Fanfan, Fantasio, elle n'était pas écrite au début, mais elle s'est dessinée au fur et à mesure. Et il a un peu changé le fonctionnement de l'écurie, en fait, parce que comme aussi il gagne quand même pas mal de gains en concours, ça nous a donné quand même pas mal de confort aussi financier, ce qui n'était pas le cas avant ça.
Comment vous expliquez cette symbiose entre vous qui était un peu inattendue? J'imagine qu'il y a autre chose que juste ses compétences, il y a aussi un lien entre vous fort.
En fait, le cheval n'était pas hyper en confiance. Justement, si on a réussi à l'acheter pas très cher, c'est que le cheval se retenait un petit peu sur les sauts. C'est-à-dire que quand il arrivait devant un obstacle, il voulait bien, mais il n'était pas sûr de lui. Donc, il déclenchait pas son saut vraiment comme il fallait. Et au bout de quelques parcours, il a tout de suite compris qu'il n'avait plus besoin de se retenir. Il a eu confiance en moi et il s'est livré de mieux en mieux. Et du coup, ça l'a transformé dans son fonctionnement où il comptait sur moi comme moi je pouvais compter sur lui. Et du coup, la symbiose, elle s'est faite vraiment naturellement.
Là, c'est l'heure du repos pour lui.
Il boit. Ils ont chacun leur petite buvette pour boire.
Ça veut dire que c'est un peu le cheval de votre vie?
Oui, pour l'instant, oui, c'est le cheval de ma vie. Avant de le connaître, je faisais des épreuves à 1m50. J'ai construit quand même pas mal de chevaux jusqu'à 1m50. Mais au-delà d'1m50, non. Pour l'instant, c'est le number one. C'est lui, c'est le cheval de ma vie.
Premier épisode avec ce duo aujourd'hui. Feuilleton signé Emma Sarango, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mardi à 13h51. Cyril Petit du journal Ouest-France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires dans la nature.
Et je vous emmène, Jérôme, aux Herbiers en Vendée pour un atelier d'identification des vers de terre. Une quinzaine d'enfants les font sortir avec un mélange eau-moutarde, puis les rincent de suite avant de les observer. Ouest-France raconte, ni la terre, ni les petites bêtes visqueuses ne répugnent les enfants. Papa, regarde tout ce qu'on a trouvé, entend-on au loin. Noé, lui, aime bien prendre les vers de terre dans ses mains. Parfois, je vais les donner à manger à nos poules. Écoutez le ululement de la chouette, observez les larves de libellules, tailler des branches pour faire une cabane ou préparer de la limonade de sureau. Ce genre d'activité est proposé aux 6-11 ans par les clubs nature de la Cicadelle. Près de 200 sont organisés chaque année en Vendée, de Sèvres, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire. La Cicadelle, c'est un petit animal vert ou brun d'à peine 1 cm qui ressemble à une sauterelle. Mmh. La Cicadelle, c'est aussi une association qui depuis plus de 25 ans fait découvrir la nature et favorise l'éducation à l'environnement, en particulier pour les enfants.
Et cette initiative, Cyril, répond à un besoin.
Oui, témoignage recueilli auprès de l'animateur de l'expérience Vers de Terre, François-Xavier Richard. Le club nature, c'est la reconnexion avec l'extérieur. Il y a un décrochage à ce niveau. Les enseignants le disent, certains enfants ne sortent quasiment plus de chez eux. Christian Maudet, le président de la Cicadelle, complète. Si on ne sait pas ce qu'est la biodiversité, on ne risque pas de la protéger. Elle chute dans l'indifférence générale malgré le constat alarmant des études scientifiques.
Et un sondage a confirmé cette déconnexion de la nature.
Selon une étude réalisée en mars pour l'Université de la Terre, 22% des Français passent moins d'une heure par semaine au contact de la nature, un chiffre qui monte logiquement chez les citadins à 28%. Pourtant, 98% des sondés se sentent bien quand ils sont au grand air et 89% affirment que la protection de la nature est une priorité pour eux.
Pour en revenir à ces clubs, Cyril, on en trouve un peu partout.
À Marolles, dans le Loir-et-Cher, le club Jeunes Nature Animaux célèbre ses 45 ans, tandis que celui de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, année propose de rencontrer grands rapaces et fleurs sauvages. Le mouvement CPN, Connaître et protéger la nature, recense plus de 400 clubs partout en France. Je vous recommande, Jérôme, la visite de son site internet qui propose des outils pédagogiques gratuits pour mieux connaître la faune et la flore. Et puis, il y a toutes les classes vertes organisées par les écoles qui permettent aux plus jeunes de faire des découvertes très chouette.
Et en parlant de chouette, Cyril, vous vouliez faire un clin d'œil à un journal atypique.
Et oui, son nom c'est La Hulotte et il revendique le titre de journal le plus lu dans les terriers, mais pas seulement, hein, car il compte 140 000 abonnés dans 70 pays, ce n'est pas rien. La revue a été fondée en 1972 à Rubécourt dans les Ardennes par un instituteur passionné de nature et grand vulgarisateur, Pierre Deshommes. Il boucle actuellement le 117e numéro qui paraîtra cet été. Cette petite encyclopédie des bois et des champs richement illustrés est introuvable en kiosque ou librairie, mais on peut la commander. Une lecture indispensable avant de prendre l'air, car comme le dit fort justement Maïlys, 10 ans, cité par la Cicadelle, la nature c'est bien dans les livres, à la télé, mais c'est mieux quand on va la voir en vrai.
À ne pas oublier pour tous ceux qui sont en vacances scolaires en ce moment. Merci Cyril Petit du journal Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson, c'est l'actrice et humoriste Melra Bedia que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Melra Bedia, petite sœur de Ramzi Bedia. On peut la voir actuellement au cinéma dans Le mélange des genres de Michel Leclerc. Et elle m'a parlé d'une chanson que lui a fait découvrir son frère, You'll Never Know, du groupe new-yorkais High Gloss.
C'est mon frère qui déjà depuis toute petite m'a transmis sa librairie musicale. Et donc il me dit, c'est bien que t'écoutes les chansons de ta génération. Donc moi, j'ai grandi avec Ophélie Winter, les To Be Free et la Rousseau. Et lui, il voulait que j'aie une petite culture musicale, un petit background un peu plus ancien. Et il m'a fait découvrir High Gloss et bien d'autres chansons aussi. Et celle-là, elle est restée tout particulièrement dans ma tête parce que je me suis rendu compte déjà qu'elle a été reprise moult et moult fois par des rappeurs aux États-Unis et tout ça. Et surtout, je sais pas, il y a un truc musicalement qui me rassure en fait. C'est vraiment une chanson de mon grand frère qui est entre la nostalgie et y a un truc de doudou quoi. Je sais pas, c'est un doudou musical.
Vous avez quel âge quand il vous fait découvrir ce titre-là ?
Oh, je pense que j'ai 12 ans quoi. Et c'est le moment où mon grand frère devient connu. Donc il vient me chercher plus avec sa vieille R5 toute pourrie et le pot d'échappement qui traînait, mais maintenant avec sa Jaguar parce que monsieur passe à la télé. Donc c'était des moments un peu privilégiés que j'avais avec lui, où il venait me chercher à l'école et tout le monde disait « Oh là là, c'est la sœur 2, c'est la sœur 2 !» Et lui, il était très content de décapoter comme un bel arriviste. Et il m'emmenait dans Paris, dans son nouvel appartement, et il me faisait écouter et découvrir beaucoup, beaucoup de chansons. Et celle-là, c'était mon coup de cœur.
C'est en 1981 qu'est sorti ce tube disco de High Gloss, Frédéric.
La chanteuse s'appelle Bonita Taylor et c'est vraiment l'un des morceaux préférés de Melra Bedia.
Je l'aime trop, cette chanson. Et moi, elle me ramène vraiment à un truc où je me dis, je peux finir ma vie avec les chansons que j'ai déjà tout dans ma bibliothèque. J'ai plus besoin de nouveautés. Alors, c'est dommage pour les nouveaux artistes qui sont sans doute très talentueux, mais j'ai l'impression que j'ai déjà tous les classiques qu'il me faut.
Et ça, c'est un classique.
Ah ouais, c'est un classique. Ah, elle est charmée, non ? C'est un chef-d'œuvre en fait, c'est une pièce quoi. Pour le mettre au musée quoi.
Cette chanson, c'est une femme qui vient de se faire quitter et qui traite l'homme qui l'a quitté d'idiot en lui disant « Si tu savais à quel point moi je pensais qu'on aurait pu vivre quelque chose. »
Tout à fait.
Ça c'est une situation que vous avez vécue ?
Ouais, comme tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai que les mots résonnent, on va pas mentir. Et puis nous les filles, on adore écouter des chansons qui retracent un petit échec. C'est notre passion, sachez-le. Et parfois, même quand j'ai pas une peine de cœur, quand j'écoute une chanson, j'aime bien m'identifier à la personne, donc je fais croire que j'ai une peine de cœur dans ma tête. Voilà. Mais ça, c'est un truc de meuf.
Et du coup, ça permet de vivre plus encore la chanson ?
Ah bah, je la vis à fond les ballons, je te dis la vérité.
Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'écouter cette chanson-là après une rupture ?
Oh, mais bien sûr ! Moi, ça fait 30 ans que je suis en rupture, vous voyez pas ? Je suis l'ex-URSS, moi. Non, non, je rigole, mais bien sûr, oui, oui. De toute façon, on écoute les chansons un peu tristes ou nostalgiques quand ça va pas. Hein.
C'est quoi le décor? Le meilleur décor pour écouter cette chanson?
Il y a deux décors. Tu prends le tunnel de la Défense, Nanterre, Suresnes, tout ça. Tu sais, celui qui va jusqu'à Saint-Cloud, je crois. Tu sais, il y a un tunnel qui est hyper graphique, qui peut même te faire mal aux yeux avec les néons si tu restes trop longtemps. Ça, ou sur un bateau, je trouve que ça marche aussi. Porto Vecchio, j'y vais souvent, petit bateau, tu vas jusqu'aux îles Lavezzi et t'écoutes ce son-là, c'est merveilleux.
On pleure ou pas quand on écoute ce son-là?
Ça dépend du mood du jour, tu vois. Et du texto que t'as reçu avant.
Sur le plan amoureux, là, ça va en ce moment?
Ouais, ça va. Franchement, ça va, j'écoute pas trop avec Gloss en ce moment. Mais ça ne saurait tarder.
Bateau que tunnel routier, personnellement. You'll never know. High Gloss, c'était donc Frédéric, le choix de Melra Bedia.
Melra Bedia à l'affiche du film Le Mélange des genres de Michel Leclerc en salle depuis la semaine dernière.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme, bonjour.
On parle de l'espace?
Oui, on va parler de protection planétaire.
À tout de suite.